14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Toujours avec Pascal Neveu qui est avec nous, psychanalyste, thérapeute de couple. Alors jusqu'à présent, dans la première heure, on avait plutôt des personnes qui pensaient que la fidélité était une valeur indispensable.
Crucial.
Oui, cruciale si vous voulez. Je rappelle ce chiffre, hein, 77% considèrent que la fidélité totale est nécessaire pour qu'un couple soit durable. Dans cette deuxième heure, on va peut-être mettre les pieds un peu dans le plat puisqu'on va évoquer tout de suite le polyamour. Françoise, qu'on vient d'avoir d'ailleurs, c'est à évoquer ce terme déjà. Hein. Et pour nous expliquer de quoi il s'agit, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Brouet. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous êtes déjà venue sur Sud Radio pour parler de ce documentaire que vous aviez réalisé, que j'ai vu cet été d'ailleurs, hein, qui s'appelle Lutine. C'est un documentaire dans lequel vous montrez un couple hein, qui... Enfin, c'est surtout la femme d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est plus les femmes qui évoquent le polyamour. Enfin, en tout cas, je pense à Françoise Saint-Père. J'ai plus eu des témoignages féminins que masculins sur cette question du polyamour. Est-ce que vous confirmez
Alors, si je peux me permettre, déjà, c'est pas un documentaire, en fait, c'est une fiction.
C'est vrai.
Et que moi, j'appelle comédie documentaire pour brouiller les genres, parce que voilà, en polyamorie, on brouille les genres, on vient déranger, titiller là où ça dérange. Effectivement, c'est une comédie documentaire, donc c'est l'histoire d'un couple qui se pose des questions et l'histoire d'une réalisatrice qui réalise un documentaire.
Absolument.
Sur la polyamorie.
Mais excusez-moi, c'est vrai que je sais que vous n'aimez pas qu'on dise documentaire, mais je trouve que justement ce terme convient bien parce que quand on ne connaît rien du polyamour, qu'on voit votre film qui est en effet très romancé, hein, je suis bien d'accord avec vous, mais je trouve que vraiment on sait de quoi on parle quand on parle du polyamour, et c'est en ça que je trouve que le film est intéressant et qu'il mérite d'être vu. Voilà.
Si. Mais, oui, mais parce que c'est
vous avez
effectivement
raison. C'est pas un documentaire,
mais c'est l'histoire d'une réalisatrice qui fait un documentaire sur la polyamorie. Donc on parle, et effectivement, il y a des gens qui témoignent à l'intérieur de ce
voilà,
cadre fictionnel.
Voilà, notamment Françoise Saint-Père
voilà.
et d'autres femmes. Mais est-ce que vous êtes d'accord que c'est surtout des femmes qui ont envie de s'essayer au polyamour?
Alors en fait, c'est sans doute plus facile de parler. Alors moi, je parle de polyamorie, pas de polyamour. Ça permet de ne pas croire d'emblée de quoi il s'agit. Quand on dit polyamour, les gens entendent aimer plusieurs personnes. Il ne s'agit pas d'aimer plusieurs personnes. Il s'agit de la possibilité de vivre plusieurs relations en parallèle, amoureuses ou non, sexuelles ou non, et de manière consensuelle et éthique. Ça veut dire que tout le monde est au courant, que tout le monde est d'accord, que toutes les personnes concernées sont d'accord. Et éthique, c'est vraiment l'idée de s'engager, de prendre soin de la relation de l'autre, de faire attention à
l'autre. Donc il y a quand même une relation principale.
Pas nécessairement.
Pas
du tout, justement.
Non.
Et donc, la polyamorie, quand on dit polyamorie, ça vient du mot américain qui est polyamorie, ça permet que les gens se disent « Hein, mais de quoi tu parles ? De quoi il s'agit là ?» Et du coup, on est obligé d'expliquer. Et quand on explique, effectivement, on ne parle plus du tout... De fidélité, nous on parle d'exclusivité, donc c'est important d'être fidèle. Pour moi, je suis fidèle, et comme dit François Saint-Père, je suis fidèle mais non exclusive. Ça veut dire je suis fidèle, fidèle c'est un mot latin, enfin ce qui vient du mot latin fides fidei, qui veut dire confiance. Ça veut dire je suis fidèle à ma parole, à la parole donnée, au contrat passé. Je suis fidèle à qui je suis, à ce que j'ai promis à l'autre, à mes engagements. En revanche, on peut décider en toute connaissance de cause et dans une relation, et je ne parle pas de couple, je parle de relation, ça peut être un couple ou pas, dans une relation, on peut décider qu'on sera non exclusif.
Mais par exemple, un couple marié peut décider d'être polyamori.
Polyamoureux, oui, pour le coup.
Et à ce moment-là, si à un moment donné, il y en a un des deux qui a envie de vivre une autre histoire avec quelqu'un d'autre et donc de divorcer, est-ce qu'il n'aura pas renoncé à sa fidélité au sens où vous l'entendez?
Alors, pardon, si ils sont polis, qu'ils sont tous les deux d'accord à l'intérieur même d'un couple et qu'il y en a un des deux qui vit une histoire en parallèle, pourquoi ils divorceraient?
Mais parce qu'ils tombent plus amoureux de l'autre, tout simplement.
Ah ben, la polyamorie ne
mais à ce moment-là,
n'est pas un remède au fait que par moment, on va se séparer,
évidemment.
Il y a évidemment des séparations en polyamorie, bien sûr.
Oui.
Mais est-ce que ça signifie que les règles du jeu sont définies dès le début de la relation, que les règles du jeu, on peut les modifier également en cours de route?
Oui, bien sûr. C'est par définition. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on sort du cadre hétéronormé, mono, on va vous dire c'est comme ça qu'on fait et que tout le monde fait comme ça et ça ne peut pas être autrement. Dès qu'on sort de ce cadre-là, on est obligé de se mettre d'accord et de discuter. Donc en fait, ça fait des gens qui parlent beaucoup, 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 qui dialoguent constamment en communication non violente, si possible, et qui font en sorte de rediscuter constamment où on en est. Donc c'est qu'est-ce que tu veux savoir ? Est-ce que tu veux savoir avant ? Est-ce que tu veux savoir après ? Est-ce que tu veux ne pas savoir ?
Est-ce que tu veux voir les photos ?
Tu veux y assister ?
Évidemment, de quoi j'ai envie ? Moi. Mais et de quoi tu as envie, toi? Et
vous y croyez pas beaucoup, Pascal?
Ah non, j'y crois pas du tout. Non, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des statistiques, des chiffres. Vous avez des chiffres sur ce que deviennent ces couples, combien de temps ils durent ensemble, s'ils se séparent, pour quelles raisons, etc. Il y a des études poussées ou pas?
Il y a pas de chiffres en France, à ma connaissance.
Aux États-Unis, j'imagine.
On parle de 5% de la population.
Ça me paraît énorme, ça, oui. Ça me paraît énorme.
Non, c'est ce qu'on donne comme chiffre. Voilà.
L'espérance de vie de ces couples? Justement sur ces 5%.
Alors le truc, c'est qu'en fait, on n'est pas sur...
Vous n'êtes pas sur cette réflexion-là, en fait.
L'espérance de vie, c'est... est-ce qu'un couple, on le définit par rapport à sa durée ? Est-ce que c'est une qualité particulière ? Est-ce que je préfère rester très longtemps avec quelqu'un en étant exclusif et malheureux ? Parce que c'est le cas parfois, moi ça m'est arrivé de rester très longtemps avec quelqu'un en étant parfaitement exclusive et totalement malheureuse. Ou est-ce que ce qui compte, c'est d'être heureux et bien dans une relation? Et parfois, comme dans toute relation, il y a des relations qui durent longtemps, parfois pas, mais l'idée c'est d'être bien et pas d'être durable.
Moi personnellement, qui suis tout le temps en train de dire que l'infidélité, il faut arriver à la dépasser parce que c'est vraiment un drame pour beaucoup de couples, donc l'idée du polyamorie me paraît tout à fait séduisante, mais je n'y crois malheureusement pas beaucoup non plus, parce que je pense qu'il faut avoir une véritable réflexion sur ce qu'est le sexe, sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est la relation à l'autre, pour arriver à dépasser toutes ces peur, c'est jalousie, c'est... Enfin, voilà. Et votre film, d'ailleurs, le montre très très bien, puisque votre héroïne, à un moment donné, elle se retrouve un peu piégée, parce que son compagnon...
C'est l'arroseur arrosé, oui, bien sûr.
Il n'est pas...
Ah oui, finalement, c'est obligé.
Mais c'est une comédie, à nouveau.
Lutine, le titre.
Tout ça, ce sont effectivement des réflexions d'adultes, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on fait des enfants là-dedans?
Alors, ça, c'est autre chose.
Oui,
mais déjà, pour répondre à votre question précédente, est-ce qu'il y a des couples qui durent? La réponse est oui, évidemment oui. Ne serait-ce que Françoise Saint-Père, qui est notre grande prêtresse, comme elle aime pas que je l'appelle à tous, qui a écrit Aimer plusieurs hommes et Le guide des amours pluriels.
Oui, mais en même temps, moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que Françoise Saint-Père, elle vivait ça très très bien, mais que son compagnon, il n'était pas si heureux que ça.
Moi, je l'ai rencontré, il a l'air très bien heureux.
Vous prenez le polyamorie, donc vous êtes forcément convaincu qu'il est très heureux. Mais moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit exactement le contraire. Alors, encore une fois, je ne sais pas qui a raison.
Ne parlons pas de gens, mais de fait, moi, je connais énormément de gens autour de moi qui sont en couple depuis très longtemps et qui sont très heureux les uns et les autres.
Et les enfants alors ?
Et les enfants, ça change rien. À partir du moment où les parents sont heureux, épanouis et où les choses sont dites, verbalisées et où effectivement tout le monde est bien et heureux, il n'y a pas de souci.
Les règles du jeu sont expliquées aux enfants aussi ou pas ?
Pas nécessairement.
Pas nécessairement.
On parle aux enfants au moment où ils posent des questions. Donc la règle de base, c'est respecter l'autre. Et ne pas mentir. Donc on ne ment pas, point. Et à partir de là, par rapport aux enfants, ça va être comme avec tout enfant, ma vie sexuelle ne te regarde pas. En revanche, à partir du moment où s'il y a tout d'un coup quelqu'un qui rentre dans la famille et qui va plus ou moins modifier les rapports...
Oui, parce qu'il y a une systémique familiale.
Dans la famille, voilà. Là, évidemment, on en parle. Mais les enfants... Après, ce qui est plus compliqué, c'est quand ils arrivent à l'âge d'aller à l'école, et en particulier sur les adolescents, parce que tout d'un coup, c'est juste, on vit pas tout à fait comme les autres. Mmh. Donc, les enfants, ils savent. À partir du moment où eux, ils sont heureux, ils savent aussi qu'il y a certains à qui on va en parler.
Oui, tout à fait.
Et puis d'autres pas, parce que tout d'un coup, ils savent que les parents vont juger, que si les parents vont juger, ça risque de poser problème. Mmh. Mais sinon, en soi, les enfants, il n'y a pas de souci. Et en plus, fondamentalement, et de mon expérience, les enfants sont polyamoureux naturellement, petits. Et puis c'est petit à petit la société qui va les former, les normer. Ma fille a naturellement 4 amoureux. Et puis ma mère vient lui dire, il va falloir te décider quand même. Mais d'où, pourquoi ? Et c'est ça en fait, on forme, on, De même que une petite fille va dire, oh là là, alors moi j'ai un amoureux, une amoureuse. On va dire, ah ben non, tu peux avoir un amoureux, mais enfin t'es une fille, pourquoi toi tu peux pas avoir une amoureuse? C'est la maîtresse qui va dire ça, ou le maître, c'est l'école.
Enfin, là, c'est encore notre débat, ça c'est un débat sur l'homosexualité.
On norme les enfants, oui. Et donc on norme les enfants à la monogamie de la même manière qu'on les norme à l'hétéronormalité.
Toute société norme de toute façon et dans tous les domaines, ça on
ne
pourra malheureusement pas y échapper.
Bien sûr.
Isabelle Brouet, vous allez nous répondre dans un instant où vous en êtes avec ce film, Lutine, est-ce qu'il va enfin être visible? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Et puis on va donner la parole à Michael également dans un instant sur Sud Radio, qui c'est sa femme, je crois qu'il y a plusieurs hommes dans sa vie, et vous pourrez réagir également. On se retrouve dans un instant.
14h 16h Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes avec Pascal Neveu aujourd'hui. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette expression poly-amour. Eh bien, on essaye de vous expliquer de quoi il s'agit avec Isabelle Brouet, la réalisatrice de cette comédie documentaire. Ça va? Ça vous va, ça?
Parfait.
Merci. Qui s'appelle Lutine. Mais alors, ça en est où? Vous avez une salle, ça y est? Ou vous êtes toujours en train de courir à droite à gauche pour arriver à ce que le film soit visible? Parce que pour l'instant, c'est compliqué de voir le film.
Alors, je cours à droite à gauche pour mon plus grand plaisir et celui des spectateurs qui le voient. Là, je rentre tout juste de Lyon. J'étais à Lille la semaine dernière, à Marseille la semaine d'avant. Je vais être à Strasbourg début mars. Et puis, je suis en train d'organiser une grande tournée aux États-Unis un peu partout. Là, je viens d'apprendre hier soir que j'étais sélectionnée à Vancouver. Mais surtout, on va faire une tournée partout. Et à Paris, oui, je pense qu'il devrait sortir dans les mois qui viennent. Et puis, en fait, je vais là où on m'invite. Alors, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui m'entendent, prenez contact avec moi. Le site du film, je fais ma pub, hein. Lutinelefilm.com. Donc Lutine comme un lutin, comme lutinage créé par François Saint-Père qui veut dire polyamorie. Donc lutinelefilm.com. Et effectivement, là, à partir de là, si vous avez des contacts avec une salle, avec un cinéma, avec une salle des fêtes, si vous avez un grand hangar avec un rétroprojecteur, je passe le film dans des conditions comme ils ont distribué En quête de sens. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Brigitte.
Non, celui-là, j'ai pas vu.
Qui est pareil, voilà, qui est un film merveilleux qui a fait plus de 200 000 entrées dans les réseaux associatifs. Donc il y a une autre manière de distribuer le cinéma en France par les réseaux associatifs,
mais c'est ce
autrement
qui s'est passé
que la grande distribution.
Oui, et c'est ce qui s'est passé pour Ceci est mon corps.
Alors voilà, Ceci est mon corps est un exemple parfait. C'est un film qui a été produit comme à la maison. C'est vraiment c'est le nom de la production. Et qui passe à Paris depuis 2 ans, non-stop. Et qui en est à 15 000, un peu plus de 15 000 entrées. Il y a une scène culte sur YouTube qui en est à 233 000 vues, je crois, avec Marina Tomé qui fait une scène fabuleuse qui parle de l'orgasme féminin. C'est drôlissime. Et ce film ne tient que par le bouche à oreille depuis 2 ans.
Mais
au cinéma La Clé.
Le bouche à oreille, c'est une belle publicité.
Le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. C'est vraiment
Exactement.
Les spectateurs. Et je pense qu'aussi, on est dans un moment de transition où les gens en ont marre qu'on leur dise quoi voir, quoi faire, quoi penser.
Mais les réseaux sociaux peuvent même faire élire des présidents, hein, semble-t-il. Michael est avec nous maintenant. Bonjour Michael.
Bonjour Brigitte. Bonjour à vos invités.
Bonjour Michael.
Bonjour.
Alors, ça vous parle, j'imagine, ce dont on a, ce qu'on a évoqué.
Exactement, exactement. Je suis partagé. C'est vrai qu'avec la vie d'Isabelle, j'ai vraiment, voilà, moi, mon histoire, en fait, elle est assez compliquée. Je vis depuis 10 ans avec une femme, mariée depuis 3 ans. Sur ces 10 ans, il y a eu plusieurs fois où ma femme a eu envie de, voilà, elle a eu des sentiments pour d'autres hommes. Donc on était vraiment fusionnels, donc on s'est toujours tout dit. À ce moment-là, je savais pas comment trop les gérer. Elle a jamais été très loin dans toutes ses relations. Mais apparemment, c'est vraiment le besoin de ressentir cette passion du début qui a fait que à chaque fois, elle avait. Et là, le problème, c'est que depuis un an, ça s'est empiré et elle a été plus loin avec un homme en particulier. Et du coup, on se posait vraiment la question de savoir est-ce qu'il était vraiment possible de... Parce que je veux vraiment pas la perdre, elle doit sûrement m'écouter. En ce moment, je l'aime énormément et je voulais vraiment peut-être continuer avec elle en trouvant peut-être une solution. Mais
c'est compliqué,
vous
avez utilisé le terme « ça s'est empiré hein, » et ça montre à quel point vous souffrez finalement de cette situation.
Oui.
Vous souffrez et en même temps, vous ne voulez pas la perdre.
C'est ça, exactement. Et là, je me dis que voilà, c'est une possibilité, mais je même en imaginant dans le futur, je souffrirais vraiment, vraiment trop de supporter tout ça. En fait, je suis pas sûr d'en être capable, et en même temps, je suis incapable de la quitter non plus. Et oui, c'est très dur. En ce moment, du coup, c'est très dur. Et ces sentiments, on peut pas les contrôler. Du coup, même si je lui demande d'arrêter quoi que ce soit, c'est plus fort qu'elle. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment vivre. Voilà, les passions du début à chaque fois, et ça se renouvelle. Voilà, c'est pas nouveau, et je savais qu'il y avait cette tendance-là, mais j'ai pas...
Voilà. Alors, à mon avis, parce que j'ai déjà entendu souvent Françoise Saint-Père le dire, à mon avis, vous devriez quand même essayer de vous rapprocher de personnes qui pratiquent le polyamourus, et j'ai donné la parole à Isabelle dans un instant, parce que peut-être que ce discours-là peut vous aider à supporter qui pour l'instant semble assez insupportable. Mais c'est pas sûr non plus.
Non, c'est compliqué. Lorsque vous évoquez votre souffrance auprès de votre épouse, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Qu'est-ce qu'elle vous répond ?
Elle le comprend. Ouais. Elle essaye de... Elle voudrait vraiment rester, mais il y a quelque chose à chaque fois qui la pousse. Voilà, on a des discussions toutes les soirées, on a des profondes discussions.
Toutes les soirées ? Vous en parlez tous les jours ?
Non, pas toutes les soirées.
Non.
Voilà, mais... Quand vraiment on met les points sur les i, on se rend compte que voilà, là par exemple en ce moment c'est en train de se réamorcer. Voilà, il y a eu un moment où voilà, ça fait 3 mois où elle avait arrêté avec cet homme là, et là c'est en train de recommencer, et je lui ai dit cette fois-ci, je pense que je peux plus le gérer en fait.
Mais c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Vous dites, voilà, quand on met les points sur les i, c'est-à-dire qu'effectivement, cette situation ne vous convient plus du tout.
Alors, Mickaël, en même temps, elle n'envisage pas du tout de vous quitter. Si vous lui posiez un ultimatum, que vous n'avez pas fait visiblement, et vous avez raison de ne pas le faire, qu'est-ce qu'elle choisirait à votre avis ?
Elle choisirait sûrement de rester avec moi, parce qu'on s'est mariés, parce qu'elle est croyante, et qu'il faut, il faut rester ensemble, mais... Vraiment, je sais pas vraiment au fond ce qu'elle serait prête à faire en fait pour parce qu'elle est aveuglée par la passion du début aussi, donc je sais pas vraiment. Pourtant, actuellement tout va bien en tout cas, et donc comme on dit souvent, c'est basé sur ça. Elle va pas chercher ça en fait.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous évoquons la fidélité, l'infidélité, des sujets toujours chargés d'émotions, avec Pascal Neveu qui est avec nous aujourd'hui. Mickaël, vous nous avez appelé sur Sud Radio. Vous avez votre compagne qui a besoin d'être amoureuse de temps en temps, et qui vous aime certainement très profondément. C'est de plus en plus douloureux visiblement pour vous. Alors Isabelle Brouet qui est avec nous et qui a réalisé cette comédie documentaire Lutine, qu'est-ce que vous dites à Mickaël ?
De se rapprocher de groupes poly dans la ville où il habite ou dans la région, de venir sur le site polyamour.info. Il y a un forum, il y a des articles, il y a des gens qui sont là pour répondre à typiquement ce genre de questionnement. De venir sur Facebook, il y a un groupe polyamour, et puis il y a des groupes polyamoureux locaux un peu partout. Je ne sais pas, vous habitez, Mickaël ?
J'habite sur Nice.
Il y en a à Marseille,
il y en a à
Avignon, il y en a à Montpellier.
Vous êtes déjà intéressé à ça, Mickaël ?
Depuis un petit moment que je vous écoute, oui, j'en ai déjà entendu parler. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est la seule solution.
En tout cas, ça vaut le coup d'écouter et puis d'essayer de comprendre cette philosophie. En même temps, c'est pas pour ça que ça va forcément vous aider. Hein. J'entends bien que c'est complexe pour vous. Au fond, pour l'instant, vous supportez parce que vous ne voulez pas la perdre. Jusqu'à quand vous pourrez le supporter ?
Alors en fait, l'enjeu, c'est pas forcément de supporter ou d'être en souffrance. Hein. J'entends que c'est difficile, et en rien la polyamorie n'est une solution miracle. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir en parler, et puis en réalité d'apprendre à gérer ces émotions. C'est de repérer quelle est cette douleur qu'on ressent, d'où elle vient. Est-ce que c'est une peur d'être exclu? Est-ce que c'est une peur du rejet? Est-ce que c'est une peur de l'abandon? Est-ce que c'est une peur de la peur?
C'est intéressant ce que vous dites, Isabelle Brouet, parce que vous êtes en train de nous dire que de toute façon, même si on est poly amoureux, excusez-moi, hein, j'utilise le terme
non, mais polyamoureux,
en France,
ça se dit vraiment, oui.
Ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne souffre pas. Ça ne veut pas.
Évidemment.
Ça veut pas dire pour ça qu'on.
On est des humains. Donc,
oui, mais c'est important parce qu'on a tendance à penser que tout est beau, tout est merveilleux. C'est un peu le discours que nous tient quand même Françoise Saint-Père. Hein. Vous avez un discours un peu plus nuancé.
Alors moi, ce que je dis, c'est la théorie, c'est une chose, la pratique, c'est autre chose.
C'est ça.
Et,
oui.
La théorie, c'est quelque chose de rationnel, et les émotions, c'est tout sauf rationnel. Donc en fait, l'enjeu, c'est qu'on peut être complètement d'accord avec la philosophie, et puis après, on peut
sur le terrain,
en souffrir dans ses tripes. Et l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à en parler. L'un avec l'autre, quand on est dans un couple, et puis de pouvoir exprimer d'où viennent ces sentiments, quelles sont ces émotions, quels sont ces sentiments, qu'est-ce qui permettrait de mieux gérer ce sentiment-là, et puis que l'autre puisse écouter et réagir.
Ce qui me semble le plus important pour Michael, c'est qu'effectivement, d'abord là, il a des ressentis très violents, hein, si je puis dire. Qu'il se renseigne, qu'il voit un tout petit peu, et il verra au niveau de ses émotions si c'est la voie qu'il privilégie ou pas du tout, mais il va falloir faire un choix à un moment donné, parce que là, vous allez être déchiré, vous risquez de souffrir davantage. Bon, voilà, donc un renseignement, etc. Puis ensuite, à vous de faire votre propre choix et puis d'en mesurer les conséquences et si vous devez vous séparer
alors,
de votre compagne.
Moi Michael, le conseil que je vous donnerais d'une manière, alors c'est vraiment un conseil très pratique, tant que je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas tant que votre corps le supporte, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas un symptôme de maladie quelconque qui tout d'un coup prend le dessus, vous pouvez continuer à tester, à voir. Mais si vous vous rendez compte tout d'un coup que vous avez un ulcère, que vous avez des problèmes physiques
cardiovasculaires, des mangeaisons,
je ne sais quoi
etc.
d'autre, là, à ce moment-là, il faut vraiment prendre une décision. Parce que je pense que on peut supporter psychiquement énormément de choses, mais quand ça déborde, c'est le corps qui trinque, et quand le corps trinque, c'est qu'on est vraiment en danger.
Ah oui, le corps exprime les mots qui nous perturbent au fond de nous. C'est une parole et un langage qu'il faut écouter.
Mais en même temps, si je peux me permettre, et moi qui vais toujours dans un côté très positif, d'essayer de voir les choses positivement, c'est peut-être possible pour vous, effectivement, de découvrir qu'il y a une autre manière de vivre les relations extérieures multiples en dehors de la culpabilité.
Vous prenez votre
bien sûr, mais peut-être que Michael sera très heureux, lui aussi, s'il en parle, d'avoir lui aussi des relations.
Excusez-moi, mais j'étais la première à lui proposer, évidemment, de se rapprocher de vous. Mais moi, je suis là parce que j'aime mes auditeurs et je veux surtout pas qu'ils se mettent en danger. Donc moi, c'est le conseil que je donne à Michael, mais je ne lui dis pas je ne lui donne aucun conseil de quoi que ce soit. C'est vous, Michael, de toute façon, qui
après,
est en train
savoir que on est tous les deux notre première expérience. Donc je me dis peut-être aussi que elle veut vraiment, elle a pas fait le bon choix et que du coup, mais c'est à essayer. C'est sûr que je vais essayer de toute manière parce que je vois pas d'autre choix. Mais
il y a quand même un autre choix parce que vous savez son besoin de revibrer, c'est quelque chose de très féminin. Les hommes vont plutôt être infidèles pour des questions de sentiments hormonaux et
c'est
puis
ça.
Les femmes vont plutôt être infidèles.
Exactement.
Parce qu'elles ont besoin de sentiments amoureux. Alors peut-être que si elle accepte de travailler un petit peu ça aussi avec un thérapeute, elle va peut-être comprendre d'où ça vient, ce que ça signifie. Et
c'est, on en a c'est vu aussi... un, et il nous a dit d'attendre que la tempête passe. Donc on n'a pas réessayé.
On est bien avancé avec ça.
Non, mais ça c'était un conseil. Il savait pas trop quoi dire.
Oui, il nous a écouté parler pendant une heure et c'est tout. Et à la fin, il nous a dit ça. Mais voilà. Donc c'est vrai que.
Non, un bon thérapeute, il aurait dû lui proposer de la rencontrer seule pour aller un peu creuser qu'est-ce que ça cache, parce que ce besoin de vibrer, moi je l'entends très bien et je le comprends très bien, mais c'est aussi
commun à toutes les femmes. Pour moi, j'ai l'impression vraiment
beaucoup
que
de femmes, toutes n'exagérons rien, mais beaucoup de femmes, bien sûr.
Mais c'est c'est quelque chose qu'on a voilà, surtout quand c'est une première expérience, je pense. Elle a jamais connu quelqu'un d'autre que moi. Donc,
vous avez quel âge, Michael?
29 ans.
D'accord, vous êtes jeune.
Donc, oui.
Oui, c'est... allez-y, je vous en
non,
prie.
Non, excusez-moi. Non, par contre, à l'inverse d'elle, j'ai pas du tout ces envies-là. Par contre, c'est complètement à l'opposé. J'ai aucune envie de regarder les autres femmes. C'est comme si j'étais vraiment comblé.
Oui, mais en même temps, Michael, il y a ce phénomène humain terrible. Comme elle vous échappe beaucoup, vous la rattrapez, vous voulez la rattraper, et vous avez, voyez. Donc c'est aussi une belle manière de rendre l'autre accro. Hein,
ouais,
c'est de lui échapper.
Vous êtes noyés dans vos émotions là, tous les deux. Donc il faut absolument, mais voilà, allez fouiller, allez voir tout ce qui se passe.
Moi, je conseillerais aussi un meilleur thérapeute.
Il faudra une thérapie de couple là, effectivement, avec quelqu'un.
Vous n'avez pas été bien conseillé, hein, Michael, je crois, semble-t-il.
On va faire ça.
Bon courage.
Merci beaucoup.
Allez, passez
une
bonne
fête. Merci de votre appel. Merci en tout cas, Isabelle Brouet. C'était intéressant parce que même avec le cas de Michael, on voit bien que c'est très complexe et que, ça fait mal de savoir que l'autre peut aimer quelqu'un d'autre, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. C'est pareil dans le libertinage. Il y a des libertins qui, ça va très très bien jusqu'au jour où il y en a un des deux qui tombe amoureux. Vous faites bien la différence d'ailleurs, hein, entre les libertins et les polyamoureux, bien sûr. Hein. Je suis pas en train de vous mettre dans le même sac.
Moi, je pense que l'infidélité fait mal dans tous les cas, qu'elle soit uniquement sexuelle, comme vous avez l'air d'en parler avec le libertinage, ou qu'elle soit amoureuse. Pour moi, l'infidélité fait mal. Parce qu'on est dans la rupture du contrat, on est dans le non-respect de la parole donnée, on est dans une forme de trahison, on est dans du mensonge. Donc effectivement, à partir du moment où on se sent trahi, on peut plus avoir confiance en l'autre. Et si on construit quelque chose et qu'on construit un couple, comment on fait pour avancer?
Mais ça montre bien que dans notre société aujourd'hui, alors que pourtant on parle tout le temps de sexe partout, que finalement cette relation sexuelle, elle a encore beaucoup 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 de poids. J'ai oublié de le dire à Michael, mais je crois que c'est à lui que j'ai envie d'offrir mon livre Les films de culte aux éditions Glénat. Michael a peut-être déjà raccroché, c'est pas grave, de toute façon il recevra ce livre qui vient de sortir et qui est tout à fait magnifique. Merci beaucoup, Isabelle Brouet.
Merci à vous.
On retrouve maintenant Amandine qui voudrait réagir à la 25 ans. C'est la génération Tinder et elle trouve que c'est bien compliqué d'être fidèle. Bonjour Amandine.
Bonjour
voilà. Amandine.
Je vous appelle justement parce que je me posais la question du ça fait un an et demi que je suis avec mon copain, on va se marier. Maintenant il se pose la question éternelle du nous nous sommes rencontrés sur internet, donc les sites de rencontres classiques, hein.
Ouais.
Oui.
Et je l'ai retrouvé il y a quelques semaines sur un site. Qui est un site de rencontre. Maintenant.
Mais qu'est-ce que vous faisiez sur ce site, vous aussi?
Pascal.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une histoire de confiance. Et je suis allée chercher dans son téléphone, hein, comme les gens de ma génération. Beaucoup font ça. C'est classique, je suppose. Ouais. Voilà. C'est l'ayant retrouvé sur ce site, celui-ci me disant qu'il n'avait juste besoin de plaire, de retrouver. Des personnes, justement, on en revient à ça, de discuter, de... Voilà. Mmh. Je ne pense pas qu'il soit allé plus loin, mais après, je pense que je mélange la confiance. Et je ne sais pas ce que je devrais faire ou pas au niveau de... Est-ce que c'est de l'infidélité? Est-ce que ça en est pas? Pour moi, ça en est, même si c'est émotionnel.
Mais de toute façon, Amandine, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. On est un peu accro, on a l'habitude d'y aller, et puis on a la curiosité, et puis on continue à y aller. Et je dirais que dans l'absolu, c'est assez classique et normal, et que c'est pas très grave, sauf qu'on joue un peu avec le feu.
Et oui, c'est ça le problème. Et effectivement, vous découvrez des choses, vous n'en discutez pas, vous allez fantasmer ce qui n'est peut-être pas la réalité. Peut-être qu'il a simplement besoin, effectivement, de se rassurer sur un plan de séduction, etc., que ça n'irait pas plus loin. Mais là, vous êtes fait piéger par vos propres sentiments. Il ne faut jamais espionner sur les téléphones, jamais aller sur les sites, attention, hein.
Mais oui, comme il ne faut jamais poser des questions embarrassantes, sauf si on est polyamoureux. Mais,
Vous comptez en discuter avec lui ou pas du tout?
J'en ai déjà discuté avec lui, celui-ci qui m'a expliqué que c'était du... quel mot a-t-il employé? Que c'était vraiment c'était même pas de... Il avait un besoin de le faire. C'était son ego. Il m'a expliqué ça par son ego. Voilà.
C'est pulsionnel. C'est presque un peu addictif. On pourrait dire ça. Mais comme beaucoup de gens qui vont aller sur des sites de jeux, des sites de pornographie, des sites de rencontres, je crois que vraiment ça fait partie des addictions. Quand je dis addiction, ça veut dire que c'est un petit peu plus fort que nous. On se dit, j'y vais pas. Non, c'est pas bien. Il faut pas que j'y aille. Oh, puis si, j'y vais. Et puis on y va. Et puis comme on n'a pas l'intention du tout tout de rencontrer quelqu'un d'autre, on n'a pas l'impression qu'on fait mal.
Non, mais il a pris une habitude. Il a pris une habitude d'être sur cette application, sur ce site. Il a pas retiré l'application. Il a le site dans ses favoris, etc. Donc, il va mécaniquement. Physiologiquement.
Voilà. Moi, je pense, Amandine, si vous avez envie de rester ensemble et de lui refaire confiance, il faut symboliquement marquer le coup et organiser une sorte de rituel qui va faire que vous allez, je ne vais pas dire vous fiancer, mais enfin, en tout cas, marquer quelque chose qui va sceller un petit peu plus votre couple et qui va permettre de passer à une autre étape. Et puis, avec évidemment la promesse de ne plus aller sur ce site. Vous voyez, quelque chose qui soit assez symbolique et qui puisse vous rassurer et qu'il puisse lui aussi reconnaître qu'il a un petit peu, entre guillemets, fauté. Et je pense que c'est la solution qui vous... C'est la seule solution
que
je vois.
Comme vous le disiez, c'est peut-être de votre génération, mais effectivement, attention, là, il vous fait du mal, il faut qu'il l'entende, et puis il va falloir qu'il passe à d'autres activités pour se rassurer au niveau de son ego.
Donc, il va falloir qu'on en discute.
Alors, n'en discutez pas des heures non plus, parce que de toute façon,
ça risque de le braquer. En plus, il peut y retourner, il va recréer un nouveau compte. Donc non plus, faut pas banaliser, mais faut pas le normaliser, si vous voulez.
Voilà, c'est pas de l'infidélité au final.
Pour moi, non. Mais si ça l'est pour vous, il faut qu'il l'entende aussi. Vous comprenez ? Si ça l'est pour vous, il faut qu'il l'entende.
Vous avez peur là, en ce moment. C'est même pas trop un problème de confiance. C'est attention, ça pourrait peut-être déraper à un moment donné, parce qu'on a l'impression dans votre discours que vous entendez, vous croyez dans ces paroles, dont acte. Mais maintenant, attention à la souffrance qui s'immisce et au doute.
Alors, ce qu'il faut bien entendre aussi, Amandine, c'est que vous croyez que parce qu'il va sur d'autres sites, il peut rencontrer quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même votre peur qu'il faut d'abord entendre. Tout d'un coup, vous réalisez que oui, il vous a rencontré comme ça et que donc il peut rencontrer d'autres. Et c'est votre manque de confiance en vous et en votre capacité à être unique pour lui. Et ça, peut-être aussi qu'il faut qu'il puisse l'entendre. Parce que si un homme sait expliquer à sa femme à quel point il la trouve désirable et qu'elle est unique, eh bien, ça rassure énormément. Et beaucoup de femmes doutent de ça. Et c'est pour ça que ce genre d'incident provoque beaucoup de dégâts. Mais au fond, Amandine, certainement qu'il vous a choisi, que vous êtes la femme qu'il désire et avec qui il a envie d'être. Et qu'après, à côté, c'est le côté un petit peu animal de l'homme, qui aime bien chasser et trouver d'autres gibiers. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il a envie de changer de partenaire. Vous comprenez ? Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut que vous puissiez vous répéter. Moi, je pense que vous avez besoin d'un acte fort qui vous ressoude.
Qui ancre de nouveau là votre relation. C'est important.
Je pense qu'on va faire ça. Je pense que ça serait intéressant. Du coup, vous m'avez rassuré beaucoup. Voilà.
Merci, Amandine.
Allez, bon courage.
Merci
beaucoup. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
14h. 16h. Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Pascal Neveu est avec nous et nous évoquons la fidélité et l'infidélité. C'est quand même la vraie question, je le disais tout à l'heure à 14h. C'est une émission qu'il faudra peut-être réécouter encore et encore et toujours parce que c'est la vraie question. Je rappelle les chiffres. 77% considèrent que la fidélité totale est nécessaire pour qu'un couple soit durable et 30% des Français ont déjà eu des relations avec d'autres partenaires. Et 75% des infidèles ne le regrette pas. Voilà les chiffres principaux. Alors, Pascal Neveu, il nous reste quelques minutes avant de se quitter. Donc, le petit cadeau que vous proposez, cadeau coquin.
J'avais plusieurs idées. Alors, se déguiser en Père Noël et en Mère Noël, ça risque d'effrayer un peu les enfants. Mais je crois qu'on peut se concentrer.
C'est un cadeau pour adultes.
Pour adultes. Je pense que ça peut être intéressant de se trouver une thématique de dîner, un dîner érotique. Il y en a un qui prépare l'entrée, l'autre qui prépare le plat de résistance pour chauffer un peu les corps, et puis terminer par les gourmandises du dessert avant de passer dans la chambre ou ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, on tire dans un chapeau tout ça, mais le leitmotiv de cette soirée, c'est érotique, donc on peut s'amuser également dans la décoration du plat, dans l'assiette également, à faire des choses très, très coquines, très suggestives sur un plan sexuel.
D'accord, faire fonctionner son imagination culinaire.
Tout à fait.
On est avec Cyril maintenant. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour. Bonjour à votre
bonjour
invité.
Cyril.
Écoutez, moi je voulais simplement témoigner parce que je suis à l'encontre, on va dire, des tendances. J'ai fait le choix d'être fidèle à ma femme. Mm-hmm. Et au regard de tous mes amis qui
ne le sont pas, j'imagine.
Voilà, je me dis, enfin souvent on me fait le truc, la vie passe vite, tu vas le regretter un jour, tu vas te retourner et tu vas avoir des regrets et tu rates ta vie d'homme.
Oui, vous disent en gros que vous n'en profitez pas assez, hein, c'est ça.
Oui, mais enfin les conseils des amis, moi je le dis souvent, attention, prudence.
C'est plutôt eux qui se donnent bonne conscience, hein, finalement.
Ben, j'en sais rien. Des fois, je me pose la question parce que c'est vrai que je suis un homme et j'ai des envies.
Moi,
Cyril,
je vais vous donner la réponse. En tout cas, je vais vous expliquer pourquoi vos amis ont tendance à vous dire ça, parce que vous êtes un reproche vivant pour eux.
Ouais, vous pensez vraiment?
Ah, je pense vraiment.
Bien évidemment.
Bah évidemment. Mais... Vous prenez la fidélité, vous en êtes fier et vous avez l'air d'un être heureux, pour l'instant, peut-être pas à demain, mais en tout cas pour l'instant. Donc vous êtes la preuve vivante qu'on peut être fidèle et avoir un couple qui fonctionne bien et être heureux. Et bien quelque part, cette culpabilité d'être infidèle, elle est encore très prégnante dans notre société.
Hein. C'est un peu la voix du diable là, qui vous titille un tout petit peu, hein, alors que vous êtes effectivement dans quelque chose qui est la construction du couple. Là, ils veulent vous découpler en quelque sorte en prenant l'infidélité.
C'est le serpent.
Ouais, c'est le serpent du jardin d'Éden. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus venir spolier, si je puis dire, vos propres valeurs, les corrompre totalement. Voilà, vous avez envie d'être fidèle, vous avez juré fidélité à votre compagne, bah restez fidèle. Et puis bah vos amis font ce qu'ils veulent. Mais voilà, vous êtes un peu l'homme à abattre là, hein, pour eux. Hein. Vous leur renvoyez une image terrible d'eux-mêmes qu'ils ne supportent pas.
Ouais, c'était pareil aussi dans un autre domaine, mais au niveau d'alcool, de temps en temps, je fais une trêve de 6 mois à 1 an d'alcool, je bois pas pendant un an. Et pareil, les premières soirées où on refuse les verres, c'est un enfer à vivre.
Tout à fait. C'est le problème du champ social où effectivement, bah, l'autre va vous pointer du doigt en disant « t'es pas normal, faut que tu fasses comme tout le monde ». C'est le phénomène de groupe tout cela. Et effectivement, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome du tatoué, si vous voulez, pour appartenir un peu à une communauté, à une caste, et bah, il faut que tout le monde soit tatoué. Et vous n'aurez pas accès à cette communauté si vous n'êtes pas tatoué. Et je pense que si vous n'avez pas envie d'être tatoué, et bah, écoutez, c'est votre domaine. Ça signifie que ce ne sont pas des vrais amis, hein. Je suis désolé. Hein.
Bah, vous savez, les amis, pour accepter l'autre dans sa différence, il faut déjà arrêter voir un bon psy. Hein. Donc, voilà. Non, mais ce qu'il faut vraiment, Cyril, c'est être clair avec vous-même. Et puis après, quand vous serez vraiment clair avec vous-même, ça vous fera même sourire.
Non, mais je suis clair avec moi-même. Mais j'avoue que tout n'est pas toujours rose dans mon couple à plein de niveaux. Pour autant, j'ai choisi de pas passer le cap parce que j'ai choisi d'avoir une famille, des enfants, une femme, etc. Entre guillemets, j'ai rempli mon contrat moral, même si j'ai mes envies d'homme de temps en temps, mais je me les garde pour moi. Et puis voilà, j'ai pas envie de rentrer entre guillemets en regardant par terre et en ayant menti. Enfin, quoi, voilà.
Il y a tout de même une sexualité dans votre couple.
Ça pourrait être l'objet d'un autre débat, mais non, c'est pas la folie, non, pour être.
Ouais, mais vous en discutez justement?
Ah oui, beaucoup.
D'accord. Bon, peut-être pas trop non plus, mais c'est peut-être ça qu'il faudrait faire évoluer également, parce que vous voyez, le discours de vos amis, à un moment donné, il risque de prendre un petit peu plus prise hein, par rapport à ces frustrations que vous avez.
Ouais, je sais pas, non, enfin, voilà, mais je voulais témoigner pour dire ça.
D'accord.
Mais vous savez, Cyril, la question d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes ou avec d'autres hommes, si on est une femme ou même si on est un homme, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vais commencer à normaliser les choses.
Vous allez faire comme ma femme en disant qu'il n'y a que les hommes qui trompent leur femme et pas l'inverse.
Non, je vais pas du tout dire ça parce que je crois qu'aujourd'hui...
Les témoignages ont bien montré que c'était plutôt l'inverse. Hein.
Oui, même. Et puis on s'en fout. Je pense qu'on se trompe. J'aime pas ce mot en plus. Je pense qu'on va vers d'autres corps pour des raisons différentes en tant qu'homme et en tant que femme. C'est ça, j'en suis à peu près certaine, mais sinon, on a tous nos pulsions, ou plutôt nos sentiments hormonaux, n'est-ce pas, Pascal Neveu ? Non, je crois que ce qui est important, Cyril, c'est de comprendre ce que ça signifie de passer à côté de sa vie. Parce qu'au fond, c'est ça qui vous a titillé, c'est pour ça que vous avez témoigné. Et moi, je reviens toujours aux raisons qui font que vous avez envie de témoigner. Dans la vie, on a tous des valeurs, on a tous des choses essentiels qu'on ne veut pas rater. Vous, vous avez mis comme valeur réussir votre vie de famille et réussir votre vie avec votre femme. Bon, c'est une valeur qui n'est absolument pas négligeable. Maintenant, il faut que vous ayez quand même à côté peut-être des choses qui vous font vibrer si en effet votre sexualité elle n'est pas si épanouissante que ça. Sinon, en effet, à un moment donné, ça va craquer. Donc moi, c'est juste ça que j'entends. Parce que c'est vrai que, quelque part, être frustré sexuellement dans un couple, ça peut, à un moment donné, provoquer des choses pas très agréables. Voilà. Donc c'est ça. Mais ça, c'est un discours qu'il faut avoir avec vous-même.
J'ai juste précisé, en fait, non, j'en ai fait mon parti. Je me suis dit que, voilà, si je voulais être heureux en famille avec ma femme et mes enfants et la cellule familiale, on va dire, je me suis dit que ça avait un prix. Grâce à Dieu, j'ai vécu avant de connaître ma femme et avant d'avoir mes enfants, donc je sais ce que c'est aussi d'aller voir ailleurs. Et c'est grâce à, je pense, que j'ai vécu avant que justement j'ai mis cette valeur de la fidélité en premier par rapport à tout ce que je peux.
Oui. Oui, et vous avez certainement pas des besoins sexuels énormes, donc ça passe, ça tient, et pourquoi pas. Mais encore une fois, je suis pas persuadée qu'il soit indispensable d'avoir beaucoup de relations sexuelles dans un couple pour que le couple soit solide. En revanche, il faut avoir des choses qu'on fait ensemble et qui sont bien. C'est pas seulement la famille. C'est juste ça que je voulais dire.
Eh ben, c'est là où on a beaucoup de progrès à faire, je pense. Oui. Parce qu'au bout de 10 ans, c'est vrai que ça s'est un peu estompé, ouais.
Voilà. Ah, c'est là l'essentiel, justement.
Donc faites-les ces progrès-là, et à ce moment-là, vous allez pouvoir vivre encore heureux ensemble pendant 30 ans. Mais faites ces efforts de trouver peut-être des distractions, je n'irai pas jusqu'à dire une passion, mais faire des choses qui vous soudent ensemble, de manière à ce que vous n'ayez pas cette tentation qui est à côté de vous.
Mais je peux vous poser encore une question, j'ai le temps ?
Bien sûr, allez-y Cyril.
Je voulais juste savoir, qu'est-ce que je réponds à ma femme parce qu'elle est dans un milieu où elle a affaire à plein de monde qui trompe tout le monde, autant les femmes que les hommes, enfin bref, plein de choses, et elle ne me croit pas que je suis fidèle en fait, et j'aimerais tellement qu'elle rentre dans ma tête et dans ma vie pour voir que c'est vraiment vrai, mais je ne sais pas comment lui faire accepter que, du coup, elle me bloque sur plein d'activités que je pourrais faire et que je ne fais pas, parce qu'elle a peur que j'aille voir ailleurs, mais je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs, je n'irai pas voir ailleurs, mais je n'arrive pas à lui faire accepter quoi.
C'est comme si elle voulait vous pousser à l'infidélité, alors ?
J'en sais rien, mais elle est restée sur l'image du Cyril qu'elle a connu, ses ex-célibataires, donc, qui est sorti d'une histoire de célibat, qui a fait un bel de 400 coups, qui lui a un peu raconté. Et elle est restée bloquée là-dessus, alors que je suis plus le même, malheureusement.
Il faut qu'elle, Cyril, il faut qu'elle comprenne qu'elle vous a choisi parce que vous étiez un séducteur et qu'elle a gagné le séducteur, mais que quelque part il y a encore ce fantasme derrière elle qui traîne et qu'il faut qu'elle dépasse, parce que c'est pas bien de pas vous croire. Et c'est elle qui a un problème au fond d'elle-même, inconsciemment.
Brigitte, parce que je vois l'heure qui passe et ça va bientôt couper. Souvent, elle me demande de lui raconter mes histoires de quand justement j'étais célibataire et toutes les bêtises que j'ai pu faire.
Je crois que là, elle a un vrai problème qu'il faut qu'elle règle, parce que ça peut nuire à votre couple. On est vraiment en fin d'émission, mais je vous promets, Cyril, si vous voulez réagir demain, je vous reprendrai à l'antenne en tout début d'émission, et puis je vous expliquerai tout ça, parce que c'est très clair, moi, nous, Pascal Neveu et moi-même, on voit bien ce qui se passe dans sa tête. Et si je vous l'explique, peut-être que vous pourrez avancer dans votre couple. On vous retrouve demain, Cyril, il n'y a pas de souci.
J'essaie de vous rappeler demain. Alors, merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup, Monsieur Leveux, en tout cas. Merci beaucoup.
Merci à vous, Cyril. Le calendrier, on va l'offrir à Cyril, après tout.
Oui,
ce calendrier de la Musardine, puisque je voulais l'offrir à Amandine, mais Amandine, c'est plutôt un homme qui va apprécier.
On va l'offrir à Cyril.
Et puis sa femme, elle va apprécier. Elle va me voir dans des tenues un peu sexy, voilà. On se retrouve demain. Demain, on sera avec Sophie Cadalen. C'est la journée mondiale de l'orgasme, donc on va parler du plaisir demain, évidemment.
Tout un programme.
À demain.
Dommage que je ne sois pas là.